Le texte du Deutéronome ce matin, Deutéronome, la deuxième loi, Deutéronomos, nous rappelle ce temps difficile qu'a vécu le peuple d'Israël au cœur du désert, tant d'incertitudes, quel va être l'avenir. Les 10 commandements ont déjà été donnés sur le mont Horeb. C'est un souvenir à la fois joyeux et douloureux pour ce peuple d'Israël, parce que quand Dieu parle, en tout cas dans l'Ancien Testament, avant que n'advienne Jésus-Christ, sa parole est terrible. Et souvent, elle est accompagnée de feu, de clameurs. Et le peuple d'Israël se souvient, quand ces 10 commandements étaient donnés, que le Seigneur s'est révélé comme un Seigneur de feu, comme un Seigneur terrible. Et il demande à Moïse, est-il possible que le Seigneur nous parle un peu plus doucement, un peu plus paisiblement, qu'il ne nous parle pas directement. On retrouve là l'intuition de l'Ancien Testament. Voir Dieu, c'est mourir. Le Dieu trois fois saint, le voir, et même dans ce texte, l'entendre, entendre directement sa parole, c'est mourir. Donc, demande du peuple d'Israël, est-il possible? Moïse, lui l'intercesseur, lui le médiateur, lui le prophète, est-il possible, Moïse, que le Seigneur nous parle différemment? Qu'il y ait une médiation, qu'il ne nous parle plus directement, mais qu'il nous parle. Il nous arrive à tous dans nos vies d'avoir des moments où il nous faut, avec discernement, choisir un chemin de vie. Nous avons le choix quelquefois entre plusieurs chemins de vie. Quel métier choisir? Quelles études choisir? Et ce n'est pas toujours difficile de savoir quel est le juste chemin. Alors la tentation, quelquefois, de nous, mais de bon nombre, surtout de nos contemporains, et d'aller chercher conseil auprès, comme le dit la traduction qu'a lu Christine, auprès de charlatans, j'ai bien aimé cette traduction, auprès de personnes qui sont capables de lire dans les étoiles, dans le ciel, et même, chose plus effrayante, quelquefois, de confier sa vie, parce qu'il s'agit bien de cela, de confier sa vie avec des personnes qui discutent même avec les morts, et cela était une pratique, nous dit le Deutéronome, des peuples qu'allait rencontrer le peuple d'Israël en entrant dans ce pays que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Quand on est dans l'incertitude, cette tentation-là existe bel et bien. Mais le texte du Deutéronome nous dit fermement ce matin que ce n'est pas la juste voie, et que la juste et seule voie, que le chemin de vérité et de vie est pour nous, est le chemin de la parole de Dieu méditée, est le chemin de la prière, est le chemin de la rencontre avec Dieu. Si dans nos moments, encore une fois, d'incertitude, nous prenons ce chemin-là, la parole de l'Éternel nous dit que nous ne le ferons pas en vain, mais que le Seigneur saura nous conseiller, nous diriger et nous faire prendre le juste chemin pour nous. Et ne nous trompons pas, ce juste chemin n'est pas forcément un chemin dénué d'épreuves. Le peuple d'Israël a été confronté à de nombreuses épreuves. Suivre le Christ, c'est assurément être confronté à des épreuves. Mais c'est assurément pour nous un chemin de vie. L'Éternel répond à la demande du peuple et dit à ce peuple, « Je ferai surgir de vous un prophète qui, en mon nom, vous parlera. Vous écouterez sa parole. » Et vous saurez que c'est un vrai prophète et non pas un prophète si cette parole s'accomplit. Malheur au prophète qui prendrait mon nom en témoignage pour annoncer de fausses paroles, parce qu'alors il mourra. C'est assurément difficile d'être un vrai prophète, et nous le voyons dans tout l'Ancien Testament au travers de la vie de tous les prophètes. Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel qui ont payé souvent un lourd tribut de devoir être prophètes de l'Éternel. Mais quel est ce prophète annoncé par Moïse? Quel est ce prophète qui doit se lever du cœur du peuple pour partager la parole du Seigneur? À la réflexion, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul prophète, mais je pense plutôt que le Seigneur suscite des prophètes quand il le veut, quand il le souhaite, pour parler à son peuple quand ce peuple est dans une situation difficile. Je crois à la réflexion que Martin Luther a été l'un de ces prophètes, suscité par Dieu pour parler à son peuple, suscité par Dieu pour parler à son Église. Martin Luther surgit du peuple, homme comme les autres, mais homme de prière, saisi pour annoncer cette parole de grâce, vous le savez, qui a révolutionné la pensée occidentale, qui a révolutionné même la pensée de Dieu de manière universelle. Cet homme qui nous a annoncé, parole que nous entendons à nouveau ce matin, quand Jésus-Christ, nous étions assurés de la grâce et du pardon de Dieu, quand Jésus-Christ, nous étions les enfants bien-aimés de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que durant toute sa vie, durant tout ce ministère, Martin Luther est resté ferme et a su parler avec une autorité, cette autorité qui lui a été donnée par Dieu et qui a pu lui permettre de dire devant tout le clergé réuni, on pourrait dire devant l'Église entière, je ne puis me dédire de la parole que Dieu m'a donnée. Je ne puis dire autrement parce que cette parole m'habite et je me dois de la partager. Parole éminemment prophétique qui replace Luther dans les mêmes conditions qu'ont été placés Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, chargés d'annoncer quelquefois une parole difficile, mais sûre parole qui venait de l'Éternel. Ce jour-là, Jésus est au début de son ministère, est entré dans une synagogue pour prêcher, pour interpréter la parole de Dieu. Et cette parole est reçue avec autorité. Et cette parole est éminemment performative. Jésus parle et sa parole produit de l'effet. Jésus parle dans les évangiles et la tempête est apaisée. Jésus parle ce jour-là. Il ordonne à l'esprit mauvais, à l'esprit impur de sortir de l'homme dans lequel il est placé et cet esprit impur est chassé. Le Christ est la parole faite chair. Le Christ est le Logos incarné. Dans le livre de la Genèse, nous entendons Dieu dire que la lumière soit et la lumière est. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus ordonner à l'esprit impur de sortir d'un homme et cet esprit impur sort. Jésus parle avec autorité. Jésus veut parler avec autorité, frères et sœurs, à tous ces esprits mauvais, à tous ces esprits sombres qui sont au cœur de chacune et de chacun d'entre nous et qui nous empêchent de saisir la vie à pleine main et à plein cœur. Esprit sombre qui nous fait douter de nous-mêmes quand nous ne trouvons pas de travail jour après jour, semaine après semaine, année après année. Esprit sombre qui nous fait douter de l'amour de Dieu alors que nous sommes plongés dans un combat contre une maladie terrible. Esprit sombre qui nous empêche d'ouvrir nos cœurs et nos mains à notre prochain qui peut-être et sans doute nous a fait du mal mais que nous sommes appelés à pardonner. En chacun de nous, il y a ces esprits sombres, ces esprits mauvais qui nous agitent et que la parole de Dieu veut chasser. Confions-nous à cette autorité du Christ, afin qu'il fasse surgir en chacun de nous la vie, et qu'il nous relève et nous ressuscite à une espérance nouvelle, à une vie nouvelle. Mais d'où vient cette autorité du Christ? D'où vient cette autorité de Jésus? Il me semble qu'elle lui vient de trois caractéristiques essentielles qui sont aussi celles, je le crois, de tout prophète et qui ont accompagné, je le crois aussi, Martin Luther tout au long de sa vie et qui ont accompagné tous les prophètes que l'Éternel a suscités depuis que le monde existe. La première caractéristique de cette autorité, c'est un ancrage en Dieu, une communion spirituelle avec Dieu. Telle était bien la vie de Jésus, la vie du Christ. Lui qui ne cessait de vouloir s'échapper aux demandes de la foule, aux demandes de mauvaises religions, aux demandes de miracles, afin de retrouver ces moments privilégiés de communion fraternelle avec son Père, de communion de foi avec son Père. Si Jésus parle avec autorité, c'est que les gens ressentent, les gens voient bien qu'il est habité par l'Esprit de son Père et qu'il ne parle pas simplement pour faire de belles phrases, pour servir un discours attendu, dans des lignes théologiques attendues, fussent-elles celles des Sadducéens ou des Pharisiens, mais qu'il parle parce qu'il est en communion avec le Père. Première des caractéristiques qui donnent à Jésus son autorité. La deuxième caractéristique essentielle, il me semble, est qu'il est totalement cohérent. Jésus est un homme de cohérence parfaite. Ses actes et ses paroles sont en totale cohérence. Le seul, bien sûr, l'unique, lui dont l'évangile de Jean nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et bien sûr, face à un homme d'une telle cohérence, comment ne pas accueillir ses paroles? Quant à nous, frères et sœurs, bien sûr, et Martin Luther nous le rappelle chaque jour, nous sommes à la fois justes et pécheurs, nous sommes incohérents, et pour moi c'est une manière de traduire ce mot de péché qui est un peu vieilli. Nous sommes tous incohérents, incapables de faire de conjuguer totalement en perfection nos paroles et nos actes. Mais même si nous ne le pouvons pas totalement, au nom de Christ, nous sommes appelés tout de même à cette cohérence et à faire de nos vies les conséquences de nos paroles. Enfin, la troisième caractéristique qui fait que Jésus est entendu comme une personne qui parle avec autorité, c'est qu'il est profondément sincère. Il se dévoile. Il dit qui il est, il dit ce qu'il croit, sans peur des conséquences. Et il sait les conséquences. Il sait les conséquences. Dès le début de son ministère, en tout cas, cela est très clair pour l'évangile de Marc, Jésus sait comment sa vie doit finir, qu'elle doit finir sur la croix. Mais sa parole reste libre. Mais sa vie et sa parole restent d'une extrême sincérité. Et quand on est sincère, les gens, bien évidemment, écoutent. Un professeur d'art dramatique disait à ses élèves, vous savez, vous pouvez travailler autant que vous voulez, si vous n'êtes pas sincère, votre travail d'acteur ne passera pas. La sincérité, c'est la plus belle des choses, mais c'est peut-être aussi la plus difficile. Ce jour-là, comme durant toute sa vie, le Christ parle avec autorité et sa parole est accueillie parce qu'il est ancré en Dieu, parce qu'il est totalement cohérent. Et parce qu'il parle en toute sincérité. Cette autorité du Christ, nous devons l'accueillir dans nos vies. L'accueillir encore une fois quand nous devons choisir, quand nous devons prendre des grandes décisions de nos vies. Mais l'autorité, en tout cas celle du Christ, la juste autorité, ce n'est pas celle qui abaisse, ce n'est pas celle qui appelle à une obéissance aveugle. L'autorité du Christ est celle qui ouvre la liberté, c'est celle qui ouvre le choix, c'est celle qui ouvre la responsabilité, éclairée par le témoignage du Saint-Esprit. Voilà l'autorité à laquelle nous sommes appelés, cette autorité du Christ qui veut nous rendre libres. Amen.